Bien, alors écoutez, on va commencer ce séminaire où on a le plaisir, c'est le plaisir toujours renouvelé d'accueillir Steve Clarkson. Il était parmi nous il y a à peu près, il y a moins d'un an, ça.
Oui, il y a l'année dernière.
Il y a un an. Et donc, encore une fois, merci d'être présent. J'ai pas besoin de présenter très longuement Steve Clarkson. Son nom est très connu par ses bouquins, par ses idées, par les débats qu'il suscite. Mais je dirais que peut-être il y a pour moi une grande qualité, ça en toute modestie, c'est un très grand intellectuel. C'est quelqu'un qui depuis nombreuses années réfléchit avec un angle souvent original sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Des fois sous l'angle canadien, des fois sous l'angle américain. Il y a une réflexion qui s'approfondit et qui se renouvelle en même temps. Et ce matin, il va aborder une question, le titre qui fait un peu réfléchir. Comment l'Amérique du Nord réussit-elle à échouer le contexte global d'intégration, de la désintégration du continent? Parce qu'en fait, c'est une réalité, je crois, que vous n'avez pas imaginé il y a une dizaine d'années. Les liens du Canada aux États-Unis qui se relâchent très rapidement. Aujourd'hui, je rappelle toujours ça à tout le monde, moins de 50% de nos importations viennent des États-Unis. C'est également le cas du Mexique. Comment dire, on assiste vraiment à un processus de désintégration, je pense que c'est clair, même si le terme est fort, trop fort, mais disons que les liens se relâchent, se désintègrent. Et parallèlement à ça, on assiste aussi au Canada, même si personne n'en parle trop, un processus de désindustrialisation. On voit les usines qui ferment. Et je dirais, il y a aussi un troisième processus qui est en cours, c'est un processus de déconnexion. Nos liens avec les États-Unis qui se relâchent, c'est pas seulement au niveau économique, mais c'est également aussi au niveau de la diplomatie. Le Canada tente de développer une diplomatie qui lui est propre maintenant, par nécessité. À partir du moment où nos marchés finalement disparaissent, ils vont trouver de nouveaux marchés. Donc on s'oriente vers l'Europe, on s'oriente un peu partout, je dirais. Souvent un peu à l'image d'une poule sans tête, mais toujours est-il qu'il y a finalement un phénomène très nouveau dans l'Amérique du Nord qui nous amène à réfléchir à la fois sur la nature des liens d'intégration qu'on a eu jusqu'à présent, mais également aussi peut-être sur la possibilité éventuellement de voir plus loin, parce que c'est peut-être un point également qu'il ne faut peut-être pas perdre de vue. On reste quand même des voisins, on est voisins très proches, les liens sont quand même toujours encore très présents. Et que peut-être ces difficultés, j'irais même cette crise qu'on connaît à l'actuel en Amérique du Nord, est peut-être aussi l'occasion de réfléchir sur peut-être d'autres types d'intégration, ce qu'on n'a peut-être jamais fait. Il y a eu des oppositions à l'ALENA, il y a des oppositions à l'accord de libre-échange avec l'Europe, mais est-ce qu'on peut penser sur autre chose qu'en termes d'opposition, voire aussi simplement se demander est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir d'autres types d'intégration que celles qu'on a connues jusqu'à présent, essentiellement des déclarations libre-échangistes. Alors, voilà, je voulais un peu ouvrir sur ces questions, mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Steve, qui va avoir à peu près trois quarts d'heure, hein, okay, environ, comme d'habitude, pour présenter ses idées. Et ensuite, on aura un échange avec la salle. Je pense que c'est surtout ça, dans le fond, qui intéresse Steve, présenter ses idées, mais également aussi échanger et dialoguer au niveau de ses idées, parce que, dans le fond, il y a nécessité de réfléchir à l'heure actuelle, et je pense que qui le mieux que Steve Clarkson pour nous inciter justement à cette réflexion. Alors, Steve, bon, à toi la parole.
Merci bien.
Peut-être je mais là, c'est pas la nouvelle arrivée. Voulez-vous être à la table et puis vous êtes avec nous? Bon, merci beaucoup, Christian, pour l'introduction qui me donne l'impression qu'il aurait été mieux que j'arrive ici pour me mettre à ses pieds et écouter sa conférence. Mais en tout cas, la règle du jeu, c'était que moi, je prends la parole. Mais je voulais remercier surtout Michel Rioux de m'avoir invité une seconde fois en deux ans, malgré les offenses que je fais à la belle langue française. Et c'est ça, mes erreurs, Je m'excuse d'avance pour toutes, mais quand même, je fonce. La réalité globale du monde universitaire est telle que je pense que nous avons tous nous avons tous c'est pour enregistrer je dois le porter ou...
non c'est correct
okay. Je pense que nous avons tous nous chercheurs des liens plus intimes avec des collègues à l'étranger qu'avec des collègues à l'intérieur du pays et donc chaque fois que j'arrive à prendre la parole avec collègues dans d'autres universités canadiennes, ça me fait grand plaisir, et surtout à Montréal avec des collègues francophones, parce que les deux solitudes des années 60 sont encore plus grandes maintenant qu'avant. Alors bref, ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Et la possibilité de prendre la parole une seconde fois en deux ans, ça me donne l'occasion de partager avec vous les idées récentes que j'ai développées, et étant donné le fait que, ayant terminé trois livres sur l'Amérique du Nord dans la dernière décennie, je change mon champ de travail. Et je commence maintenant à travailler, à mettre l'Amérique du Nord dans un contexte global, et je travaille sur d'autres régions et sur les rapports entre les régions, par exemple entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique latine. Et donc, je propose vous parler en deux parties. La première serait l'analyse que j'aurais faite l'année dernière sur le thème précis que je propose. Et puis la seconde partie sera une autre réflexion sur la même réalité, étant donné la nouvelle perspective de mon propre travail. Mais pour introduire, pour présenter l'analyse, je dois commencer avec mon titre un peu provocant, qui se sent sur l'échec, comment l'Amérique du Nord réussit-elle à échouer. Et l'idée d'échec présume une idée de succès. Qu'est-ce que serait un succès? Et donc, je commencerai à définir les critères que j'emploie pour en sorte de mesurer la réussite ou l'échec de l'Amérique du Nord en particulier, mais ça veut dire quels seraient des critères pour évaluer n'importe quelle région, si on prend par région un groupe géographique d'États-nations. Et il y en a beaucoup dans le monde, les régions sont toujours plus nombreuses, mais il y a en Asie du Sud-Est, ASEAN, il y a Mercosur et d'autres en Amérique latine. Je pense que tout le monde dans cette salle sait bien qu'il y a bien de régions. Il n'y a pas beaucoup de régions qui réussissent très bien, mais pour mon analyse qui a centré jusqu'à récemment sur l'Amérique du Nord, je pense qu'on pourrait prendre trois types de problèmes comme les défis principaux pour la régionalisation. Ce serait économique, politique et sécuritaire. Économiquement, je pense qu'en général, on dirait qu'une région d'État réussit quand les États commencent moins à faire concurrence l'un avec l'autre qu'à coopérer, dans le sens que les chaînes de production se développent outre frontières dans l'ensemble, que la main-d'œuvre circule, qu'on exploite les ressources primaires plus efficacement, bref, que l'économie croît. En termes de système de production, qu'une entité économique se développe en tant que telle. sur le plan politique ou institutionnel, une région se évolue si elle a la capacité de créer des règles, soit des lois ou soit des ordonnances, n'importe quoi, le mot n'est pas important, mais des normes, des critères qui règlent le système entier. Pour ça, on dirait qu'une région se développe s'il y a une administration quelconque qui surveille ces régulations, s'il y a un système judiciaire quelconque, un moyen de résoudre les conflits, et une capacité de faire en sorte que les résolutions des conflits soient imposées, soient respectées. Et puis, en troisième lieu, sur le plan sécuritaire, on dirait qu'une région va de mieux en mieux si les conflits entre les États se diminuent et qu'il y a plus d'harmonie entre les États membres de la région. Alors, c'est clair que implicitement ou explicitement, ces critères viennent de l'Europe, parce que le succès incroyable des États européens depuis 1945 a créé une région supranationale avec cette intégration économique, politique, sécuritaire qu'on connaît. Elle est frappante en elle-même, mais elle fournit ces critères pour nous en général. Et le problème avec ça, c'est que on peut faire un débat sur les faits. Est-ce que c'est vrai que l'Europe a réussi, surtout maintenant avec la crise de l'euro? Mais même normativement, alors il y a une question empirique, est-ce que vraiment c'est un succès? Mais sur le plan normatif, on peut aussi se demander si la harmonisation est une bonne chose, si la perte d'autonomie des États membres est une bonne chose, ou la perte de souveraineté. Et mon premier livre dans ce domaine pour l'Amérique du Nord, je peux peut-être, je ne sais pas, en parler beaucoup, mais tu peux circuler ça. C'était Uncle Sam and Us, quel était l'impact de l'ALENA sur l'État canadien, sa capacité de faire ses propres, de contrôler son propre espace politique, soit dans les politiques de main-d'œuvre ou politique sociale, politique culturelle, politique étrangère, politique économique, etc. Mais donc ces critères sont, on peut débattre si ce qui se passe, mais je pense que ces critères sont valables pour mon analyse, parce que même si on était contre l'intégration continentale en Amérique du Nord, il y avait le professeur De Blocq a mentionné la contestation au Canada en ce qui concerne le libre-échange, même si on était contre, on utilisait ces critères parce que l'ALENA, par exemple, était présenté à l'époque, en 92-93, comme l'embryon d'un système continental qui, de plus en plus, serait comparable avec l'Europe. Et ceux qui avaient négocié l'accord et qui l'appuyaient étaient contents que l'Amérique du Nord s'en allait vers une union économique plus intime, et ceux qui opposaient l'ALENA l'opposaient parce qu'ils avaient peur que l'Amérique du Nord se développe dans ce sens, parce que si on était nationaliste au Canada ou si on était nationaliste au Mexique, on avait peur que l'intégration continentale voulait dire américanisation du Mexique ou du Canada. Voilà, alors ça, je commence avec ces critères du succès ou de l'échec. Et c'est possible que vous pensez déjà que j'ai établi la barre si haut que c'est inévitable que mon analyse prouvera que l'Amérique du Nord a échoué. Et si vous avez ce scepticisme, je comprends bien. Mais si je voulais, dans cette première partie de l'analyse, montrer qu'il y a eu d'échecs, il y a eu des réussites, et ça dépend du cas, et ça dépend de la période. Et je prendrai les deux périodes évidentes de 1994, c'est l'entrée en vigueur de l'ANENA, jusqu'à 2001, c'est-à-dire le 9 septembre 2001, et puis de 2001 jusqu'à maintenant. Et par exemple, les réussites de l'Amérique du Nord, on l'a vu sur le plan économique. Dans cette première période, il y a eu beaucoup d'intégration économique, augmentation de commerce entre Canada, États-Unis, Mexique. Monsieur De Blocq est un grand expert sur les chiffres. Croissance économique, intégration plus poussée de la main-d'œuvre, soit intégration légale, c'est-à-dire il y a eu des visas NAFTA qui a accéléré l'exportation canadienne de main-d'œuvre bien entraînée, mes étudiants qui s'en allaient aux États-Unis pour une carrière plus prospère ou plus exigeante. Il y a eu l'intégration du marché de travail illégal par l'émigration mexicaine en centaines de mille d'ouvriers mexicains qui cherchent du travail, de très mauvais travail, mais quand même du travail aux États-Unis. Et en somme, sur la question comme indice de succès économique, la taille de l'économie nord-américaine dans le monde a augmenté de 31% jusqu'à 35%, c'est-à-dire relativement au produit global, le produit national des trois pays ensemble a augmenté, et c'est un moyen de montrer que dans cette première période, l'Amérique du Nord a bien réussi. Après le 11 novembre, l'histoire est différente. C'est que, en partie dû aux barrières qu'a monté les États-Unis à la frontière canadienne, à la frontière mexicaine, le commerce a cessé de développer, ça restait plus ou moins stable. Les investissements ont diminué, étant donné les difficultés à exporter aux États-Unis. Beaucoup de firmes canadiennes sont immigrées aux États-Unis pour qu'il n'y ait pas le problème de délai à la frontière. Beaucoup de firmes américaines ont changé leur source de taille pour leurs produits pour qu'ils les trouvent aux États-Unis et non pas au Canada ou au Mexique. Et donc les chaînes de production qui avaient été un peu continentalisées se sont redevenues plus américanisées. Et donc, en cette deuxième période, l'Amérique du Nord a échoué à développer. Sur cette première question, l'économie a réussi et puis a échoué. Sur le plan politique, c'était le contraire. Dans la première période, on a vu un type d'échec de la nouvelle institutionnalisation de l'Amérique du Nord.
dans le sens que les institutions assez modestes juridiques de l'ALENA avaient montré une incapacité, non pas à fonctionner, mais quand ces institutions ont fonctionné et que les États-Unis avaient perdu le jugement dans le jugement, il y a eu deux grands cas, c'était avec le chapitre 19 de l'ALENA, Canada avait fait des procès contre les États-Unis dans la question du bois de l'exportation du bois d'œuvre, et Canada a gagné dans comment ça s'appelle, dit-on en français, les panel dispute settlement mechanism, pardon,
les
arbitrages. Et Canada a gagné la plupart de ces arbitrages, mais les États-Unis n'ont pas accepté à respecter ces jugements. Et de même avec le chapitre 20 de l'ALENA, le Mexique avait gagné ses cas contre les États-Unis en ce qui concernait le transport avec camions de produits du Mexique aux États-Unis. Les États-Unis ne voulaient pas respecter une obligation dans l'ALENA pour permettre aux camionneurs mexicains de livrer des produits, non pas de prendre des produits à, c'est pas à Guadalajara et les amener à la frontière, mais aussi de les amener jusqu'à Chicago. Et les États-Unis n'ont pas respecté cette obligation. Les jugements au sein du chapitre 20 de l'ALENA avaient dit oui, le Mexique a raison, les États-Unis doivent conformer à cette obligation, et Washington n'a toujours pas consenti à respecter ça. Alors, dans ce sens, l'intégration politique de l'Amérique en Amérique du Nord grâce à l'ALENA a échoué dans la première décennie, mais puis par la suite, ce qui est intéressant, c'est dans les années après le 11 septembre, il y a eu un développement institutionnel de l'Amérique du Nord, et ça prouvait dans un sens cette théorie que fonctionnaliste, que s'il y a des fonctions qu'un régime dont un régime a besoin, donc puis on va voir le développement d'une certaine institutionnalisation. La fonction en question en 2003, c'était que les barrières à la frontière érigées par le Department of Homeland Security et qui empêchaient le commerce causaient un problème aussi pour les États-Unis et pour certaines industries américaines. Et dans la Maison Blanche, au mois de mars, pour préciser, au moment même où M. Bush se fâchait énormément contre le Premier ministre canadien, M. Chrétien, parce que le dernier ne voulait pas appuyer les États-Unis ou les Nations Unies en ce qui concerne leur guerre voulue contre l'Irak, en mars de cette année, il y a eu une réunion dans la Maison Blanche. Et des hauts fonctionnaires se sont mis d'accord pour créer une nouvelle institution pour essayer de résoudre la contradiction entre les mesures défensives antiterroristes d'une part et le besoin d'augmenter la prospérité nord-américaine. Et après l'élection présidentielle de 2004, on a en fait eu une réunion au Texas, et le premier ministre canadien Martin, le président Bush, le président Fox avaient annoncé cette nouvelle partenariat pour la sécurité et la prospérité de l'Amérique du Nord. L'année prochaine, en 2006, à Cancun, il y a eu une réunion des trois leaders, et c'était maintenant M. Harper, et les trois leaders avaient fait deux choses encore plus importantes. L'une, c'était de se mettre d'accord que chaque année, il y aurait un sommet des leaders nord-américains, et puis qu'il y aurait maintenant le Conseil nord-américain de la compétitivité, North American Competitiveness Council, qui unissait les leaders des entreprises des trois pays. Et l'année suivante, en 2007, à Montebello, le sommet nord-américain se réunissait avec cette North American Competitiveness Council. Et si Karl Marx regardait d'en haut ce qui se passait, il aurait probablement dit, voilà, c'est le comité exécutif de l'Amérique du Nord. Parce qu'il y avait les présidents de chaque pays, les ministres des Affaires étrangères de chaque pays, les ministres de commerce de chaque pays, et 10 des entrepreneurs les plus importants des trois pays ensemble, en se tutoyant et se décidant ce qu'il fallait faire pour l'Amérique du Nord. Alors, succès politique, sur le plan politique, dans cette deuxième période, jusqu'à ce que, non Osama, mais Obama, arrivait sur la scène. Il a critiqué l'ALENA durant sa campagne primaire contre Hillary Clinton, et puis, une fois élu président, il a simplement arrêté ce partenariat pour la sécurité et prospérité de l'Amérique du Nord. Le North American Competitiveness Council n'existe plus, et le sommet quelquefois se réunit, mais ce n'est plus ce qu'on attendait, je pense, comme une sorte de vrai sommet qui gère l'Amérique du Nord. En troisième lieu, il y a la question difficile de sécurité. Et là, je pense qu'on peut dire pour les années 80 qu'on a eu une désintégration de l'Amérique du Nord dans le sens que la guerre froide s'était terminée. Il y avait ce qu'on appelait une dividende de la paix, une démilitarisation, du moins sur le plan conceptuel. On ne se préoccupait pas des questions militaires. Mais par contre, dans les années qui suivaient le 11 septembre, il y a eu une nouvelle intégration sécuritaire en Amérique du Nord. Évidemment, c'était poussé par les États-Unis parce qu'il y avait un problème très intéressant. Je ne vais pas en parler directement, mais si ça vous intéresse, je passerai. Ça c'était mon dernier livre sur et la question du livre, c'était jusqu'à quel point le périphérique nord-américain construit-elle la puissance américaine ou limite la puissance américaine. Et j'ai trois chapitres là-dedans sur sécurité. Et le paradoxe, c'est qu'en ce qui concerne, et c'est très évident avec la question du terrorisme, parce que le Canada et le Mexique sont à la fois le danger principal américain et l'appui principal américain. Danger principal parce que vous autres ici et nous autres à Toronto ayons des villes multiculturelles sont dangereux pour les États-Unis parce que Osama Bin Laden aurait pu envoyer un cousin ici pour préparer une nouvelle attaque beaucoup plus facilement que dans d'autres pays, étant donné la complexité de notre population. Et puis, étant donné que notre frontière était commune et que vous avez des, par exemple, les Iroquois à la frontière entre les Mohawks, non, à la frontière, c'est pas impossible de faire passer des gens à travers la frontière. Donc, le Canada était dangereux. Et on sait que même Mme Clinton avait dit tout de suite après l'attaque du 11 septembre que tous les terroristes étaient venus du Canada. Et vous autres francophones n'aurez pas regardé ce soap opera des années 2000, The West Wing. Mais il y avait un épisode. The West Wing il s'agissait d'un très bon président démocrate qui avait de bonnes valeurs et il luttait avec le Congrès et tout ça. Et chaque semaine, il y avait un autre épisode. Une semaine, l'épisode, c'était basé sur le fait qu'un terroriste avait passé la frontière Ontario-Vermont. Et tous les Canadiens s'en rigolaient parce que c'est un peu difficile de traverser la frontière Ontario-Vermont. Mais en tout cas, l'idée, la conscience américaine, c'était très centrée sur le danger que présentait le Canada sur le plan terroriste. Mais en même temps, le gouvernement canadien avait appuyé à 100% la perspective américaine que le terrorisme était le danger principal à la sécurité canadienne et américaine, et le gouvernement a appuyé à 90% en tout cas les politiques américaines en ce qui concerne les visas, la livraison des données sur les passagers dans les avions aux États-Unis et tout ça. Donc on peut dire que même si le Canada était et le Mexique présentaient un danger, en fait, ils se sont intégrés sur le plan normatif avec les États-Unis. Et donc, l'Amérique du Nord a réussi à se faire une zone de sécurité. Réussi dans le sens que, par la définition américaine. Mais le paradoxe, c'est que cette réussite sécuritaire a eu comme conséquence l'échec économique de l'Amérique du Nord pour les États-Unis, qui reçoivent en conséquence moins de profits, moins de richesses dues à leur rapport avec les économies mexicaines et canadiennes. Alors voilà, si je pourrais, si, j'aurais pu faire cette analyse, peut-être je vais circuler ça aussi. Ça, c'était le deuxième livre que j'avais fait sur l'Amérique du Nord, Does North America Exist? Et j'avais fait cette sorte d'analyse il y a 3 ans. La réponse à l'époque, c'était publié en 2008, Does North America Exist? La réponse était barely. Ça n'existait pas sur le plan politique. Oui, ça existait économiquement, mais la réalité était que c'était l'Amérique du Nord n'était pas vraiment une entité économique. Un exemple, pour faire un autre indice, c'était que même si l'investissement direct américain au Canada a augmenté en termes réels, la part de l'investissement américain au Canada, la part dans l'investissement étranger au Canada a diminué. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'investisseurs du Brésil en acier, de l'Inde en acier, de l'Inde la technologie informatique, par exemple Tata, la grande firme indienne, a installé à Montréal son centre pour son consulting le bras consulting est à Montréal. Et dans ce sens, l'économie canadienne se globalisait plus qu'elle ne se continentalisait. Mais ce que je disais, c'est que j'aurais pu faire cette analyse il y a 2 ans ou 3 ans ou l'année dernière. Et le problème que j'ai avec ma propre analyse, c'est que je pense que ça pose... C'est pas que ces critères ne sont pas valables et qu'on ne peut pas faire cette type d'analyse, mais je pense que l'idée d'échec et de réussite n'arrive pas à cerner la réalité nord-américaine de la manière, en tout cas de la manière que j'aimerais la présenter. Et pour la c'est pas simplement parce que le modèle c'est l'Europe, c'est que l'Europe, c'est le problème, c'est que le modèle européen pour cette magnifique expérience qu'ils ont fait là-bas de transnationalisation des guerres, la France et l'Allemagne ont cessé leur guerre civile de 3-4 siècles. Il y a eu des intégrations économiques, il y a eu de développement d'identité européenne. Mais le problème avec ce merveilleux prototype, c'est que c'est le prototype pour une seule région. Il n'y a pas, à mon avis, d'autres régions qui puissent suivre cet exemple. Et si on regarde l'Amérique du Nord, avec une nouvelle approche, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 pays dans un continent dont un a une économie qui a entre 86 ou 88% de l'économie totale. Ça varie presque 90% de l'économie totale des 3 pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas et ce n'est pas unique. Si on pense de l'Asie du Sud, l'Inde a une économie plus ou moins c'est pas 80%, c'est parce que le Pakistan est assez grand, mais peut-être 60% de l'Asie du Sud. Le Brésil a peut-être 80%, Christian a probablement le chiffre dans la tête, mais 80% de l'économie de Mercosur, le Brésil. Si on prend Russie et ce qu'ils appellent le proche, the near abroad, le proche outre frontière. Pardon? Oui, c'est ça. Ces régions sont du même type, à mon avis, que l'Amérique du Nord, qui a un géant. Et si une région a un géant, c'est bien clair que le géant ne va pas vouloir créer des institutions qui réduisent son autonomie. Si on repense à l'Amérique du Nord, je pense qu'on arrive à une autre idée de ce que c'est que l'échec ou réussite. Et je vais développer ça plus brièvement en vous demandant de penser à une période antérieure du déclin américain. Parce que c'est clair ce que le professeur Desblocs a dit au commencement, que les États-Unis sont maintenant dans une période de déclin, mais ce n'est pas la première fois. À la fin des années 70, il y a eu un débat féroce aux États-Unis sur le fait que l'économie américaine était en déclin. Et les chiffres étaient évidents. l'économie américaine qui, en 1950, constituait 50% de l'économie du monde, avait chuté 10% par décennie. C'était 40% dans 1960, 30% en 1970, et dans, à la fin des années 70, on savait que l'économie américaine était en train de devenir 22% pour en 80 de l'économie globale. Alors, les chiffres montraient un déclin relatif, mais les faits, les produits dans les magasins montraient ce phénomène inacceptable pour les Américains, que les produits qu'ils avaient eux-mêmes inventés, comme la télévision, étaient faits à Taïwan dans les magasins, où ils avaient inventé l'automobile et là, Toyota vendait à un meilleur marché. Et le débat, le point, c'est que aux États-Unis, il y a eu un grand débat sur cette question. On le prenait au sérieux. Les think tanks avaient fait des analyses sur, alors, qu'est-ce qui a réussi pour que les États-Unis soient devenus le grand pouvoir hégémonique du monde, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça, pour qu'on regagne cette position dans l'avenir. On a dit, bon, ok, la production en masse qui exige de main-d'œuvre, nous ne pouvons pas faire ça, faire concurrence avec des pays avec main-d'œuvre très très bon marché. Alors, qu'est-ce qui est notre avantage pour l'avenir? L'avantage, c'est les industries qui utilisent le savoir, qu'est-ce qu'on dit, knowledge-based industries. C'est technologie de l'information, Microsoft. C'est biogénétique, Monsanto pour les produits agricoles, c'est pharmaceutique, Pfizer, c'est aussi même toujours entertainment, Disney, une industrie globale d'entertainment. Alors, quel est le problème? Quels sont les traits caractéristiques de ces industries? C'est d'abord, il leur faut des investissements énormes, des milliards de dollars pour développer un nouveau produit pharmaceutique. Et puis, les coûts très bas de reproduction. Parce que c'est très, très bon marché de faire une copie d'un disque. On fait un film pour peut-être 10 milliards de dollars, mais chaque exemplaire coûte 10 dollars, peut-être. Et donc, pour ces industries, ce qu'il leur faut, c'est les règles de propriété intellectuelle qui permettent à l'investisseur de regagner les profits qu'elle espère. Et d'empêcher que les produits génériques ou que les copies qu'on fait soi-même dans un cinéma avec son propre vidéo soient permis. Alors, bon, on pouvait faire ça aux États-Unis où les règles de propriété intellectuelle étaient assez fortes. Mais le problème pour les États-Unis, s'ils voulaient regagner leur dominance mondiale, c'est qu'il leur fallait ces règles à l'échelle mondiale. Comment faire ça? Alors, le consensus, c'était qu'il fallait changer les règles, changer la constitution économique internationale en changeant les règles du commerce mondial qui était centré dans le GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade. Le problème, c'était que le General Agreement on Tariffs and Trade se centrait sur les produits physiques, les barrières tarifaires ou non tarifaires qui empêchaient l'exportation des produits physiques. Et les États-Unis se centraient sur les services et les produits qui contenait ces qualités d'investissement intellectuel. Le problème avec le GATT, c'est le General Agreement on Tariffs and Trade. On l'appelait aussi le General Agreement to Talk and Talk. Et ça fonctionnait sur le principe de consensus. Et il n'y avait pas un consensus qu'on doive permettre aux États-Unis d'avoir des règles qui leur plaisent et qui leur permettent d'envahir les autres économies. L'Europe était contre, le Japon était contre, le Brésil était contre, l'Inde était contre. Et alors, une sorte d'embouteillage à l'échelle mondiale, c'était la stratégie américaine, arriver à changer les règles mondiales. Tactique en face de ce problème, alors négocions sur le plan bilatéral avec des partenaires mineurs, des partenaires qui peuvent se mettre d'accord avec nous. Donc, Free Trade Agreement avec Israël, et puis accord de libre-échange avec le Canada, 80. Déjà un précédent, parce que l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, pour la première fois dans le droit international économique, contenait un chapitre sur les services. Alors, services étaient déjà là. Accord de libre-échange de l'Amérique du Nord avec le Mexique contenait un chapitre sur la propriété intellectuelle. Et le texte de ce chapitre était identique au chapitre proposé pour le GATT. Mais le GATT était bloqué, mais on avait déjà fait des textes. Et alors, la tactique, c'était de créer ces précédents sur le plan juridique, et la tactique était aussi de créer une menace sur le plan pratique. Et la menace de l'ALENA, c'était que... on peut dire ALENA était un système de règles, mais c'était aussi... ça montrait un danger que les Américains faisaient une sorte de forteresse de l'Amérique du Nord. Et est-ce que les États-Unis étaient en train de se créer une entité économique qui protégerait leurs produits, les produits des trois pays, et exclurait les produits japonais ou européens? Et, l'ALENA avait, c'était pas seulement une menace, c'était une promesse, dans le sens que si le Mexique, un pays du tiers-monde, a décidé de se mettre dans un processus d'intégration économique avec le plus grand pays capitaliste du monde, le pays le plus avancé sur le plan économique du monde, alors peut-être nous au Brésil ou nous à l'Inde pouvons accepter l'idée d'accepter ces nouvelles normes. En tout cas, une année après l'ALENA, l'Organisation mondiale du commerce est entrée en vigueur, et ça pour moi représente l'apogée de l'hégémonie américaine, parce que c'était une réussite énorme. Mais et de cette perspective, l'intégration économique et politique de l'Amérique du Nord représentait un grand succès pour les États-Unis, mais c'était un succès tactique, pas tellement stratégique. Une fois l'OMC réalisé, le Mexique et le Canada perdaient leur importance mondiale pour les États-Unis. Et je pense que si on fait cette réflexion sur ce qu'ont fait les États-Unis face à leur problème de déclin antérieur, ça nous permet de repenser ce qu'ils ont fait récemment, c'est-à-dire ne pas avoir, c'est-à-dire réagir à l'attaque du 11 septembre d'une manière traumatisée, paranoïque et défensive. Et c'est pas totalement défensif, ils ont attaqué Afghanistan et Irak, mais ils ont échoué. Ils ont créé des murs autour d'eux et ils sont arrivés à se nuire dans son approche au défi terroriste, et en même temps ils sont arrivés à créer leur propre crise économique par l'excès de leur néoconservatisme et la dérégulation qui a permis aux banques de faire ce scandale du subprime, comment ça dit, les hypothèques subprime, et le déclin de l'économie américaine a résulté de ses propres mesures, si bien qu'il n'arrive pas à se faire d'abord une acceptation de ce qui est le problème, et donc il n'arrive pas à faire une stratégie comment changer leur position mondiale, et certainement l'Amérique du Nord n'entre pas comme une partie de cette stratégie. Au contraire, le peu que les États-Unis font en politique économique internationale est dirigé, on peut dire, je pense, contre le voisin. Par exemple, leur nouveau projet de libéralisation économique s'appelle le partenariat transpacifique. C'est pas très important, mais c'est Australie, Brunei qui on a difficulté à trouver Brunei sur la carte mondiale, mais avec des économies moyennes. Et pour les premières, c'est pas 2-3 ans de négociations, Washington ne voulait pas que Ottawa et Mexico City participent dans ces négociations. Et les deux partenaires continentaux ont dû se mettre à genoux et faire des concessions d'avance avant de pouvoir se mettre à la table avec les autres. Et donc, on voit même le peu que les États-Unis font n'est pas conçu avec une vision continentale. Bon, alors je résume. Vous savez, Bill Clinton, c'était quand dans les années 90, Governor Clinton a fait le discours principal à la convention. Il n'était pas candidat, mais il a fait le discours principal à la convention démocratique. Et il aime parler, il a parlé, et puis il a dit « in conclusion », et les gens ont commencé à applaudir, finalement il vient à la fin. « In conclusion », il y a dans la littérature sur le régionalisme, il y a dans la littérature sur le régionalisme l'idée que le régionalisme, c'est la bonne mère de la globalisation. Et ça, c'est dans les années 80. Il y a des professeurs en Europe qui en a écrit. Et l'idée que le régionalisme aide la globalisation à se développer. Mais nous avons vu, pour représenter mon analyse, c'est que le blocage du globalisme, de l'institution du GATT, c'était le GATT, problème du GATT, dans la première période que j'ai développée, a eu un effet de régionalisation en Amérique du Nord. Et ça a permis aux États-Unis de pousser le globalisme de l'OMC. Dans la deuxième période, il y a eu aussi un blocage dans le globalisme parce que le Doha, le rond Doha, est bloqué. Et ça a eu comme résultat un renforcement du régionalisme dans certaines régions, par exemple Europe et ASEAN, peut-être même en Amérique latine,
Mais aux, en Amérique du Nord, ça a le résultat, c'est un accroissement du bilatéralisme. Et ce qui se passe en d'autres régions comme réponse à ce effet, comme effet à ce blocage à l'échelle globale, ne se reproduit pas en Amérique du Nord. Alors, j'ai ma définition de la recherche académique, c'est qu'on prend 3, 4, 5, 6 ans à faire beaucoup de travail pour prouver sans aucun doute ce que tout le monde savait d'avance. Et alors j'ai pris une heure à vous montrer ce que déjà le professeur Desbloch avait mentionné au commencement, mais c'est ce qu'on fait dans notre industrie, c'est essayer de repenser les problèmes. Et j'attends avec impatience vos commentaires. Merci.
Perspective rafraîchissante que tu nous as présentée. Et en fait, on pourrait, avant de laisser la parole, je faisais juste une réflexion en t'écoutant à la fin, mais moi je suis toujours persuadé que ce qu'on a appelé régionalisme, c'était un très mauvais terme. En fait, ça cachait bien souvent du bilatéralisme. Depuis, le GATT n'a été au départ conçu comme un ensemble d'accords bilatéraux qu'on a fusionnés. Et dans cette perspective-là, les États-Unis n'ont jamais lâché la perspective bilatérale. Simplement, c'est qu'à certaines occasions, ils présentent ça sous la forme d'accords plus larges, plus régionaux. Mais derrière ça, ce sont des accords bilatéraux. La légale humaine est, dans le fond, ces trois accords bilatéraux, d'une certaine façon. Donc, c'est une question qui peut être posée, et le fait qu'aujourd'hui, je dirais que le chat sort du sac. Le régionalisme, il est mort, de toute façon. Les grandes initiatives régionales, il n'y en a plus. C'est plutôt des accords bilatéraux, finalement, qui se multiplient partout. Et si l'initiative régionale, c'est plus en Amérique du Nord, ni du côté de l'Europe qu'elle vient, mais c'est du côté de l'Asie. Donc, ça, c'est une autre question qui m'a simplement m'amener à faire une réflexion par rapport à tes remarques, qui est tout à fait, je pense, enrichissante. Mais c'est une question, dans le fond, que n'arrive plus à maîtriser l'OMC. Parce que, tantôt, à l'OMC, on reste encore avec l'idée de complémentarité. Là, maintenant, on parle de recherche de cohérence. Je les adore dans leurs termes. Ils ont même changé la terminologie. Ils ne parlent même plus d'accords commerciaux régionaux. Ils appellent maintenant les accords commerciaux préférentiels. Alors, qu'est-ce que la différence avec un accord préférentiel? On ne sait plus trop, là. Mais toujours est-il que c'est une question qui se pose par-delà, finalement, ta présentation. Alors, je vous propose d'ouvrir le débat. Donc, peut-être, si quelqu'un voudrait intervenir, on pourrait prendre peut-être les questions les unes après les autres.
Pourrais-je répondre à ce que tu as dit?
Non, simplement, on reviendra après. Là, je
okay.
La parole à
plus tard.
On peut revenir, de toute façon, ouais. De la... Oui, on vient. Je vais prendre les deux questions et puis après ça, on reviendra avec d'autres questions. Oui.
Ma question, c'est que.
Pardon, vous êtes.
Je suis assez citoyen, mais je suis intéressé par l'international. Ce que j'ai remarqué dans des recherches sur Internet, le dernier livre blanc du gouvernement canadien sur la politique internationale et de défense, ça remonte à 92, 94. Apparemment, il n'y a pas eu de mise à jour depuis 20 ans. Et actuellement, on a l'impression que le gouvernement fédéral improvise. On l'a vu avec la Chine, M. Harper, il a pris position pour les droits de l'homme à propos du Tibet, puis il a fait un voyage à 180 degrés ensuite en parlant avec un panda au Canada, en faisant des bonnes relations commerciales avec la Chine. Là, actuellement, ça m'échauffe le Transpacifique. Il n'avait manifesté aucun intérêt pour négocier avec cela. Mais tout d'un coup, il embarque et on a, je reprends les branches, qu'il y avait au moins 2-3 rangs de négociations qu'on a manquées et que techniquement parlant, on est obligé d'accepter ce qui a été. Réglé dans les 2-3 rangs. C'est-à-dire, si la gestion de l'offre a pris le bord là-dedans, je sais qu'il y a des pays qui voulaient s'en débarrasser de ça, dont les États-Unis, on pourrait se trouver dans une situation embarrassante parce que notre industrie laitière, porcine ou la volaille pourrait y passer complètement. Est-ce que le gouvernement canadien improvise à la, au fur et à mesure, ou il faudrait-il qu'il y ait un véritable livre blanc qui intègre politique commerciale internationale, aide humanitaire internationale, politique de la défense nationale et diplomatie, parce qu'on a l'impression que c'est complètement là, le bras gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Là, c'est un peu ça qu'on a l'impression.
Oui, merci.
On
ne
répond pas à notre question.
Je ne peux pas répondre.
Allez-y.
Je me demande si l'échec que l'État américain a eu dans, sur le plan économique à l'intérieur de l'ALEVA n'est pas au moins partiellement compensé par le succès des industries américaines à travers le chapitre 11 de l'ALENA, sur lequel il y a eu une attaque devant les tribunaux canadiens de la part de Bob Barlow et Council for Canadians, qui estimaient avec raison, à mon avis, que le chapitre 11 n'était pas valide à moins qu'on fasse d'abord une modification constitutionnelle pour pouvoir le signer. Mais ça a été perdu. Ça ne s'est même pas rendu au Supreme. La Cour d'appel de l'Ontario l'a rejeté. Et puis, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les compagnies américaines et mexicaines, mais c'est moins envahissant, quand elles arrivent au Québec et qu'elles ont, ou à Ontario ou n'importe où, et qu'elles ont un statut X avec des avantages Y et Z, si par la suite il y a des lois générales qui ne s'appliquent pas nécessairement, pas spécifiquement à ces compagnies étrangères, mais à toutes les compagnies, mais qui se trouvent à avoir un effet adverse sur les conditions qu'elles avaient à leur entrée dans le marché canadien, c'est considéré, croyez-le ou non, comme de l'expropriation. Ça s'appelle taking. Mm-hmm. Et conséquemment, c'est invalide et ça va devant un comité international et ça reste
illégal.
Ça reste illégal.
Mm-hmm. Et donc, insister, après ça, je reviendrai vers le salon.
Bien, ok, merci. Professeur Dubloc ne voulait pas que je réponde à ce qu'il avait dit, mais quand même, je tiens la parole. Il a mis l'accent sur le bilatéralisme qui domine, mais je voulais signaler une autre réalité, c'est qu'en Europe, le régionalisme se consolide. Et je sais que tout le monde est obsédé par la crise de l'euro, mais le traité de Lisbonne a donné à la Commission européenne compétence non seulement pour négocier les traités de traités commerciaux, ce qu'elle pouvait faire, mais aussi maintenant de négocier les traités sur l'investissement. Et ça, nous étions une semaine à Bruxelles au mois de juillet, et j'ai eu des interviews très intéressantes dans le directorat sur DG Trade, le Director General on Trade. Et c'est évident que l'Europe est plus puissante sur le plan régional. L'Allemagne, par exemple, qui a négocié le plus grand nombre de traités bilatéraux sur l'investissement et avec des normes comme qu'avait mentionné André Lajoie. L'Allemagne doit maintenant céder le pas à Bruxelles. On est dans une période un peu de transition. Tout n'est pas clair. L'Espagne négocie avec un pays latino-américain, j'oublie lequel, mais c'est certainement pas l'Argentine. Et le deal, c'est que l'Espagne peut négocier ce traité d'investissement, mais Bruxelles doit approuver. Alors, c'est la transition. Et donc, ce n'est pas totalement vrai qu'il n'y a que le bilatéralisme.
Non, mais ma remarque portait uniquement par rapport aux États-Unis.
Ah, oui, OK. En ce qui concerne le Canada, ce que j'avais oublié à dire, j'ai pris trop de temps, c'est que les deux autres pays de l'Amérique du Nord ont réagi à cette désintégration ou à leur incapacité de développer leur marché américain. Le Mexique se redirige vers le sud et s'étant orienté vers le nord pour l'ALENA. Maintenant, le Mexique essaie de retrouver son essence latine. Et il y a, on crée certaines organisations au pluriel, hémisphériques, mais qui excluent les États-Unis et le Canada. Le Mexique avait, il y a eu une rencontre la dernière fois que nous étions au Mexique. Il y a le président mexicain Felipe Calderón avait une réunion aux Caraïbes avec tous les pays de l'hémisphère sauf le Canada et les États-Unis. Mais en ce qui concerne le Canada, j'avais invoqué l'esprit de Karl Marx. Si j'invoque l'esprit de Pierre Trudeau, il regarderait ce que fait M. Harper. Il dirait, mais il fait ma troisième option. La fameuse troisième option d'André Donner pourrait l'expliquer mieux que moi, mais en 1972, le gouvernement libéral avait publié une analyse de ses dilemmes continentaux, disant nous avons trois options, soit le statu quo qui n'est pas acceptable, soit en deuxième lieu une intégration plus poussée qui était inacceptable à l'époque, et la troisième option c'était la diversification économique. Et Trudeau avait négocié avec l'Europe, il avait négocié avec le Japon des accords cadres, mais le seul problème c'est que le monde commercial, le monde d'entrepreneurs canadiens étaient tellement paresseux qu'ils préféraient faire leur commerce avec des gens qui parlaient plus ou moins la même langue. Et certainement, devoir apprendre l'allemand, devoir apprendre le japonais, hors question. Mais c'est en fait la troisième option, diversification. Essayer de vendre notre pétrole. Comment on l'appelle the dirty oil, le pétrole de l'Alberta en Chine. On négocie maintenant avec l'Europe un accord qui va désindustrialiser le Canada encore plus vite, dit-on. Mais c'est vrai, on négocie avec l'Inde. Alors l'improvisation que vous avez mentionnée, je ne sais pas si c'est improvisation, mais oui, dans ce sens, on cherche des partenaires pour négocier avec, toujours avec la croyance, dans la foi néo-conservatrice, que la libéralisation du marché va nous livrer une prospérité sans fin. Mais l'improvisation inclut aussi beaucoup de patience, parce que ce n'est pas une question que Ottawa nie le réchauffement du climat mondial, c'est que Ottawa espère que le réchauffement du monde va créer une Arctique, une mer navigable en Arctique, et la possibilité de trouver des ressources et de les exporter aussi à la Chine. Et donc, c'est un mélange de ce que vous appelez improvisation et aussi de patience et de promotion du réchauffement. Parce que c'est un cercle vicieux ou un cercle, quel est le contraire, c'est une chaîne. Si on vend plus de. Si on bouille la terre bitumineuse, ça va accélérer le réchauffement du climat et ça va accélérer l'ouverture de l'Arctique. Alors, nous avons une sorte d'investissement très controversé à ces processus. Mais je ne pense pas que improvisation est peut-être un mot juste, parce que ça ne donne pas à M. Harper crédit pour son intelligence, même si son intelligence est extrêmement perverse.
Question pour le chapitre 11.
Ah, pardon, oui. Pardon, André. C'est vrai que les États-Unis gagnent les cas du chapitre 11 et qu'ils ne perdent jamais les cas contre eux. Et c'est vrai aussi que cette innovation légale constitue une menace, vous l'avez dit implicitement, une menace pour l'autonomie juridique des pays qui signent cette sorte d'accord. Et moi, je travaille sur ça, sur un autre plan. Ce qui me frappe, c'est que l'Europe est maintenant le partisan le plus conséquent de ces nouvelles normes. Et Bruxelles veut que les pays signent des accords avec elle pour développer ses droits pour les investisseurs étrangers dans les autres pays, pour que les autres pays acceptent que l'investisseur étranger peut se moquer de ses propres régulations, soit sur l'environnement, soit sur la main-d'œuvre, soit sur les droits humains nationaux. Et alors, c'est un phénomène que nous, Canadiens, avons découvert avec l'ALENA, avec le chapitre 11 de l'ALENA, et qui permettait surtout à des firmes américaines à invalider des régulations canadiennes. Mais le paradoxe maintenant, c'est que les États-Unis ne poursuivent pas avec tous les pays les mêmes normes, parce que Congress avait donné avait demandé que le U.S. Trade Representative, qui négocie ces accords, n'accepte pas des accords qui donnent à des entreprises étrangères, c'est-à-dire des entreprises étrangères aux États-Unis, des droits aux États-Unis plus élevés que ne jouissent pas les firmes américaines aux États-Unis. Alors, les États-Unis ne sont plus les grands champions de ces normes. S'ils arrivent à le faire avec un pays qui n'investit pas aux États-Unis, alors tant mieux, et puis ça ne protège que les firmes américaines dans l'autre pays. Mais ils doivent faire attention que les Tata n'aient pas des droits supérieurs à United Steel Company aux États-Unis. Mais l'Europe, il y a un débat en Europe, mais à la Commission, il n'y a pas un débat.
Yeah. Mais l'Europe, le problème, c'est que sauf la Suisse. Sauf la Suisse et quelques pays, ce n'étaient pas des pays fédéraux. Et ils ne savent pas ce que c'est qu'une fédération et ils ne sentent pas ce qui leur arrive. Actuellement, la Constitution européenne, c'est une Constitution. Comme la Constitution canadienne, ce sont des constitutions unitaires, avec un certain degré de décentralisation. Il y a 5 moyens de modifier unilatéralement la Constitution canadienne. Ça nous met au rang d'une grosse province, d'une grosse municipalité régionale. En Europe, il y en a une de plus. Il y a une... direction vers... l'unité des pays qui n'est pas ressentie par les populations qui ne l'ont jamais vécu. Mmh. La France, l'Allemagne ne savent pas ce que c'est que la fédération. Quand ils vont se retrouver de là vraiment. Actuellement, là, les règlements de Bruxelles sont supérieurs aux lois des pays.
Oui. Non, c'est la grande exception, je pense, dans le monde. C'est une régionalisation vraiment poussée. Bon, autre.
Alors, on a trois questions, quatre. Je vais reprendre. Bon, bon. Alors, un, deux, trois. Je reviendrai après. Donc, allez-y, madame.
J'essaie de faire ça rapidement. J'ai deux commentaires. Premièrement, j'aimerais vous féliciter pour votre français. C'est vraiment un plaisir de vous entendre.
Merci. Mais je suis conscient de mes. Je suis conscient que je fais des erreurs, mais je n'arrive pas à ne pas les faire.
Merci. Deux commentaires. Le premier, c'est concernant justement le SPP, le partenariat sécurité-prospérité. C'est intéressant votre l'angle de votre analyse en disant que c'était plutôt un succès politique qu'économique. Il y a quelques années, j'ai fait des recherches pour mon directeur de thèse, qui est Louis Bélanger à l'Université Laval, qui a écrit un papier justement sur le SPP. Et en fait, on a créé une mesure, par exemple, les règles secondaires, les secondary rulings, pour savoir si ils avaient atteint leurs objectifs. On essayait de voir quelle était la réussite, finalement, selon les objectifs atteints, des différents sous-groupes dans les deux piliers. Et, bon, notre recherche n'était pas n'était pas parfaite, mais puis la mesure n'est pas parfaite non plus, mais ça nous a quand même permis de découvrir qu'il y a beaucoup plus d'objectifs qui ont été atteints, bien sûr, dans le pilier prospérité, qui était beaucoup plus près des objectifs économiques, que dans le pilier sécurité. Et aussi, quelque chose qui est intéressant d'aller découvrir, c'était le niveau de délégation qui était remis. L'économie, le pilier prospérité, bien sûr, la délégation était beaucoup plus diluée dans la fonction publique, diluée dans les différents départements. Et donc, c'était plus une question de coordination entre les différents bureaux et non pas nécessairement une question de coopération. Donc, par exemple, le programme Nexus pour aider le transport des marchandises, etc. Puis le côté sécurité était beaucoup plus relié directement à des gros départements, bien sûr le DHS et le département de Homeland Security. Donc c'est intéressant votre angle parce que nous, on a au contraire trouvé que économiquement, finalement, selon les objectifs qui avaient été mis sur la table pour la SPP, semble avoir été peut-être un peu mieux, avoir eu un succès peut-être plus pas nécessairement instantané, mais plus important que le côté sécurité. Par contre, je suis d'accord avec vous pour dire qu'au côté politique, c'est-à-dire pour les grands chefs, quand ils se rencontraient dans ces sommets-là, c'était bien sûr un succès politique peut-être plus en surface. Mais un des problèmes, je ne sais pas si vous avez eu le même problème, mais un des problèmes, c'était justement d'avoir de l'information sur le SPP. C'était extrêmement difficile d'avoir des comptes rendus, de réunions. Tout a été gardé assez secret, surtout bien sûr pour le pilier sécurité. Donc là, ça, c'était juste un commentaire. J'aimerais peut-être vous entendre sur cet aspect. Mais une chose que je trouve intéressante, c'est aussi votre question, bien sûr, d'intégration. Quand on parle, vous dites que l'intégration a échoué. Ma thèse en ce moment, le sujet de ma thèse en ce moment, c'est de regarder justement pourquoi la ronde de Doha a échoué. Et particulièrement, je regarde deux domaines, l'agriculture et les services, qui sont des domaines qu'on pourrait dire nouveaux. C'est-à-dire que c'est des domaines qui ont été amenés pendant l'Uruguay, qui ont été insérés dans l'OMC. Et mon approche, c'est plutôt de regarder le type d'intégration. Si on parle d'une intégration positive, une intégration à la carte, donc c'était juste un modèle de diminution des tarifs douaniers sur des marchandises. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, les marchandises. C'était assez simple. Alors que là, maintenant, avec l'agriculture, avec la propriété intellectuelle, avec les services, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus juste des produits qui transfèrent d'un pays à l'autre. Et donc, on peut aussi parler, c'est peut-être une intégration beaucoup plus profonde qui est nécessaire parce qu'on en vient à vouloir harmoniser les standards et pas seulement baisser des tarifs. Donc, toute la question des barrières non tarifaires. Donc, est-ce que c'est vraiment un échec de l'intégration ou c'est plutôt une modification du type d'intégration? Et donc, on pourrait dire peut-être le vieux modèle ou le modèle GATT n'est plus à jour pour le type de relations, pour le type de coopération internationale au niveau du commerce quand on parle de d'autres domaines comme l'agriculture et les services. J'aimerais vous en parler.
Merci. Georges? Oui, merci beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai de la difficulté à me situer dans la perspective échec, succès. Okay. Parce que ça va dépendre de ce qu'on va mettre comme objectif.
C'était pour vous provoquer et que vous veniez ici parler.
Mais j'aimerais vous entendre parce que je suis un observateur très peu informé de ce qui se passe au Canada. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'évolution du Canada en termes de lieu autonome de détermination politique. Et il me semble qu'il y a là une évolution extraordinaire de perte d'autonomie ou de perte de souveraineté, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan juridique, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus exercer les pouvoirs régaliens de l'État souverain de façon autonome. Alors, et il me semble, alors là, sur le plan politique, que les Canadiens sont d'accord avec ça. C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, parce que dans cette perspective-là, moi qui ne suis pas nationaliste québécois, j'ai peur qu'on soit foutu dehors ou qu'on s'en aille dans une autre direction que le reste du Canada.
Il y a une dernière question, puis après ça, je passe la parole.
Merci, M. Clarkson. Vous êtes un nationaliste canadien. Je suis un nationaliste québécois, un indépendantiste. Moi, je mets les cartes sur table. Ce qui est important de savoir, c'est que cette désintégration, comme vous annoncez, cette construction du Canada présent n'annonce peut-être pas une désintégration du récent du Canada, avec la désindustrialisation du Canada qu'on connaît, et peut-être de l'arrivée d'un nouveau, je ne sais pas, ou d'autres choses. Mais... présentement, on voit une désindustrialisation de l'Ontario, non seulement l'Ontario, mais du Québec également aussi, de par les décisions politiques et économiques du gouvernement APA vers les gaz de schiste, vers le sable bitumineux, donc le pétrole. Le fait que la monnaie devient maintenant à côté avec les prix du pétrole, la force du dollar désindustrialise notre économie, désindustrialise les économies donc à travers le Canada. Et donc, le Canada se trouve à se séparer de lui-même, comme la dérive des continents. C'est comme ça. Donc, cette intégration, on peut espérer, n'est-elle pas d'État à État? Donc, d'État, les États-Unis forment 51e, donc, certains auteurs, à une certaine époque, bon, le voyaient comme étant le Canada, et certains autres, le Québec. Mais c'est, on peut revoir à ce moment-là nos accords internationaux comme étant des accords à État, parce que le mouvement se fait du nord au sud, le mouvement donc naturel canadien, de par l'histoire, c'est fait donc notre économie se fait du nord au sud, et on voit d'est en ouest. Comme on a essayé de nous le faire croire dans les histoires et dans les idéologies économiques, dont la canadianisation économique de Trudeau à notre époque. Donc, on voit maintenant le déplacement politique, mais le déplacement aussi des affaires économiques.
Alors, quelle est la question?
La question est, assistons-nous à ce moment-là à le fait des politiques économiques.
Dépolitisées.
Le désintéressement, on pourrait dire, de la question, il y a une construction canadienne qui se fait, et qui se fait donc au détriment des volontés régionales, des volontés des provinces. Mm. Et on le voit avec l'accord européen avec le Canada, les provinces n'auront pas un mois d'hiver, ou très peu. Ils vont se faire imposer des volontés qui vont peut-être être à l'encontre des intérêts ontariens, et québécois, maritimes ou autres. À ce moment-là, il faudrait voir si c'est pas le politique a perdu ou essaie de trouver des façons de faire et qui est supplanté par des hommes d'affaires, des gens qui ont des intérêts économiques et qui vont au-delà des États. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit présentement. Les hommes d'affaires font la politique beaucoup plus, comment dire, efficacement que les États.
OK. Ça me donne. Jusqu'à quand?
Allez-y.
Nous avons jusqu'à quelle heure? À midi?
Midi.
OK, bien.
On a plus que doublé le nombre de questions par rapport à ma guide. Déjà,
oui. J'ai pris la parole hier à McGill, il y avait une belle assistance, mais on m'avait dit qu'il y avait 68 personnes exactement. Il n'y en avait que deux questions. Une d'un ancien étudiant qui a posé à moi, qui a posé une bonne question. L'autre, c'était un citoyen qui m'avait demandé qu'est-ce qui serait venu si le Canada faisait déjà partie des États-Unis depuis la guerre de 1812. Alors je me réjouis beaucoup des bonnes interventions de vous autres et merci beaucoup d'avance. Hein? Mais peut-être que j'irai en sens inverse. Pour commencer avec votre préambule, je le trouve triste et comique à la fois d'être accusé d'être nationaliste. Et je pense que le Canada est le seul pays où c'est un mot péjoratif, du moins dans le Canada anglophone. Pour être nationaliste canadien, c'est l'équivalent d'être antipatriotique et ça mesure dans
vous
le sens...
Vous êtes un patriote dans ce cas-là.
Pardon?
Je suis un patriote, vous êtes un patriote.
Pardon?
Vous êtes un patriote dans ce cas-là. Mais, pour nous, aux Québécois, nationalistes,
c'est un patriote. Donc, oui, je comprends. Mais, vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Je prends seulement le mot détriment de la population, que ces accords soient au détriment de la population. Ce qui m'a fait penser aux négociations actuelles du Canada avec l'Europe, qui avait, et celle, monsieur, le défunt monsieur Jarret, qui c'était son initiative, qui a poussé Ottawa à négocier avec l'Europe. Et ce qui est nouveau dans ces négociations, ce n'est pas le mauvais accord qu'on va signer, ça c'est, on s'en avance plus ou moins, mais c'est la participation des provinces dans les négociations. L'accord canado-américain était fait par Ottawa avec un peu de consultation. On a informé les provinces. L'ALENA a été négocié par Ottawa avec un peu plus de consultation. La CETA, le Comprehensive Economic Trade Agreement, se négocie avec le Québec dans la Chambre, Ontario dans la Chambre, Nouveau-Brunswick dans la Chambre. Et ils n'ont pas le droit à parler dans la Chambre, mais ils sont là, ils parle avec le négociateur principal fédéral dans les coulisses. Et la semaine dernière, j'ai invité au déjeuner le chef de la délégation ontarienne. Et j'avais à Bruxelles, j'avais pu parler avec le chef de la délégation canadienne, le négociateur en chef. Et j'ai l'impression, c'est pas simplement... c'était off the record, on a eu c'est dans un bar, je pense qu'il a parlé honnêtement et on a dit qu'il y a un accord entre les provinces et le fédéral et le résultat c'est une sorte de nouveau fédéralisme au niveau international. Intéressant. Alors je crains que ce serait comme vous l'avait dit, au détriment de la population et de l'économie. Mais pour ces gens-là, ils qui sont convaincus de la logique, par la logique néoconservatrice, ils font du bon travail qui est dans l'intérêt du Canada et du Québec. Alors, cette question reste extrêmement controversée, mais les médias, les élites sont convaincus et malgré les échecs énormes du néoconservatisme, il reste persuadé et convaincu par ce paradigme. En ce qui concerne l'autodétermination du Canada et l'acceptation par la population de ce qui se passe, ça m'a fait penser que dans les années 90, avec l'OMC surtout, j'avais commencé à parler du Canada comme État post-national, mais puis je me suis rendu compte que le Canada n'avait jamais été un État national. C'était un État peut-être pré-national, parce que ça développait une certaine autonomie vis-à-vis de l'Angleterre, mais en même temps, nous avons développé une dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et le triomphe conceptuel de l'autodétermination de 82 avec la signature par la reine, par notre reine, de notre nouvelle constitution à Ottawa, ne marquait qu'une autonomie formelle, mais cette manque d'autodétermination, c'est en partie ce qu'a mentionné André Lajoie, ces nouveaux systèmes légaux internationaux privés qui donnent aux grandes firmes internationales des pouvoirs légaux, mais égaux à leur pouvoir économique énorme. Et pour tous les pays, pas simplement pour le Canada, ça représente une perte d'autonomie. Je vous donne un exemple en Europe, parce qu'il ne faut pas être... il ne faut pas penser que c'est seulement... ça ne passe qu'au Canada. La Tchécoslovaquie, la République tchèque, s'est réveillée un jour, il y a quelques années, ils ont découvert que le programme, qu'une régulation que Prague avait fait pour forcer les émetteurs de programmes à la télévision de faire plus de programmation tchèque avait été appelé en cours par une firme hollandaise qui était vraiment une firme américaine avec une filiale en Hollande, mais cette firme à New York a utilisé sa filiale en Hollande parce que Hollande avait un traité bilatéral d'investissement avec la République tchèque, et la firme a gagné et ils ont reçu une somme équivalente au budget tchèque pour le système de santé publique annuel. Alors, donc, l'autodétermination des pays est réduite, mais on ne le sait pas, et on ne peut pas le savoir, parce qu'on ne sait pas quelle firme avec une succursale quelque part où il y a un traité d'investissement qui peut l'utiliser pour faire un appel, un défi à un règlement quelconque. Et alors, il y a une vulnérabilité créée par ce système. Et c'est un système mondial. Et si la République tchèque ne paye pas cette amende, la firme peut utiliser le droit international économique pour poursuivre le tchèque, par exemple, pour prendre une ambassade tchèque en Buenos Aires et le mettre sur le marché et recevoir l'argent des biens nationaux dans d'autres pays. C'est un système très puissant, et à part la professeure Lajoie, on ignore ce nouveau phénomène. Alors, cette l'autodétermination, c'est une question du passé et pas du présent. En ce qui concerne le Nexus, le SPP, j'avais la première année que je faisais de recherche au Mexique, et que j'étais toujours en train d'apprendre ce que George Bush a appelé le Mexicain. J'avais une assistante et je faisais des interviews au Mexique. J'avais une interview avec un professeur de droit à l'Instituto para Investigaciones investigaciones jurídicas en UNAM. C'était un grand professeur. J'avais posé la question par mon assistante ce qu'il pensait de la SPP, la Security and Prosperity Partnership. En espagnol, c'est Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, de ASPAN. Et sa réponse, j'avais pu comprendre. C'était un mot, ASPAN. ASPAN es annexion. Il avait, comme beaucoup de Mexicains avait, et beaucoup de Canadiens et beaucoup d'Américains, avaient peur de cette alliance parce que c'était ce n'était pas organisé dans une manière qui donnait aux législateurs une possibilité de savoir ce qui se passait. En fait, c'était très difficile de se renseigner sur ce que faisaient les groupes de travail. Et je suis très conscient, c'est bon que vous ayez posé la question parce que je suis très conscient du fait que j'avais fait une analyse extrêmement partielle de ce phénomène en soulignant son importance institutionnelle comme preuve d'une certaine évolution de l'Amérique du Nord. Mais en fait, c'était très faible et c'était puissant et faible en même temps. Ça paraissait puissant avec tous ces grands entrepreneurs. Mais une fois qu'ils ont découvert que ça ne fonctionnait pas, et je vous donne l'exemple du même sommet au Montebello, j'ai une amie, Isabelle Studer, qui était, à ce moment, elle travaillait pour la commission environnementale nord-américaine, et elle était là. Et elle a entendu George demander au président, je pense le président du quel est le courrier UPS, United Parcel Service. Il a demandé à Joe, en fait, je ne sais pas comment il s'appelle, mais Joe, what do you want? What do you want us to do? Et Joe a répondu, alors du moins, au moins qu'on ait ce pilot program on pre-clearance of truck deliveries at Fort Erie. Parce que l'idée, c'était comme à l'aéroport, on pourrait faire le contrôle des livraisons de camions pour qu'on évite ces grands embouteillages à la frontière. Et alors, George Bush se dirige à, comment s'il s'appelait, le chef de DHS, le Department of Homeland Security, dont le nom m'échappe. Mike, what about it? No way. My job is 100% security. And basically, fuck you. Alors, c'était le message pour le North American Competitiveness Council que l'autonomie, et là, il y a une autonomie, le Department of Homeland Security, avait comme mission sécurité 100% contre terroristes. Alors, il n'y avait que encore plus de régulation d'année en année. Et alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je suis totalement d'accord que même s'il avait survécu, cette institution aurait eu des problèmes. Mais de mon point de vue analytique, c'était quand même une évolution certaine de l'institutionnalisation, même si c'était un peu pervers, pas un peu, mais même si c'était pervers.
Écoutez, on va prendre une dernière série de questions. Vous avez trois mains levées.
Ah oui. Premièrement, félicitations pour cette recherche et pour la communication très intéressante aujourd'hui. Steven, tu as parlé tout à l'heure de l'ALINA en tant que tactique. Je me demande, et je vais poser la question, est-ce que le TPP ne pourrait pas justement être considéré comme une...
Pardon, est-ce que...
Une tactique.
Est-ce que quoi est le
TPP?
C'est TPP? Non, je pense que c'était c'était un effort trilatéral à faire face à un problème. Et là, ils n'étaient pas en déni du problème, du fait qu'ils avaient un problème. Et c'était à un niveau élevé bureaucratique et puis politique. Alors, le SPP n'était pas simplement... Pardon?
Le partenariat transpacifique.
Ah, pardon, excusez-moi.
C'est pas là l'occasion de... Bon, je travaille un petit peu sur les ITCs, et puis je regarde aussi, il y a une nouvelle communauté, business community, pour les électroniques, tout ce qui est électronique. Et dans leur recommandation de où est-ce qu'on pourrait faire des avancées, c'était de justement introduce new language in those new regions. Mm-hmm. Est-ce que ça serait pas juste une tactique, puisque tout à l'heure tu disais bon, c'est quand même aller négocier avec des Brunei, que c'est pas vraiment important, mais est-ce que c'est pas justement l'occasion de relancer un globalisme? Et l'autre question que j'avais, moi, c'est bon, l'OMC, tu as référé à l'OMC comme étant un globalisme. Est-ce que moi, j'étudie beaucoup les formes de gouvernance privée, notamment avec dans l'Internet, gouvernance Internet, on a ICANN, Internet Corporation on assign Name and Numbers. Est-ce qu'on ne peut pas penser, justement, un peu pour rejoindre Kim, que l'OMC est dépassé, en fait, que dans le fond, les règles vraiment globales, vont être écrites peut-être par des Américains ou des firmes à dominante américaine dans des organisations privées comme ICANN, par exemple.
Mm-hmm.
Oui. Alors, M. Murphy, je vais faire le tour et puis. Oui,
merci d'être venu à l'ICANN.
Merci de m'accueillir.
Toujours dans les règles globales, je vais être concis. Puis je me demandais, vous avez parlé beaucoup de la, du régionalisme en Europe. Puis je voulais savoir si. Vous avez dit que le modèle n'était pas exportable dans d'autres régions, étant donné qu'il y avait des géants dans certaines autres régions, comme le Brésil ou l'Inde. Mais quand vient le moment, justement, de réfléchir à la gouvernance mondiale, bon, mis à part la faisabilité politique de la chose, pensez-vous qu'il y a moyen de s'inspirer de l'expérience européenne?
OK.
Monsieur Bio. Oui, deux remarques et une question. Premièrement, sur l'accord, en fait, sur le rôle des provinces dans les négociations commerciales du Canada, vous dites qu'il y a une espèce d'élan vers plus de participation des provinces, puis que, dans le fond, l'accord avec l'Union européenne, on est un petit peu l'achèvement. Moi, les échos que j'ai eus à Ottawa, c'était beaucoup « it's a one-shot deal », puis ils essayent de fermer la porte autant que possible aux provinces qui ont essayé de l'entrouvrir, justement. Puis si ça a été le cas avec l'Union européenne, c'est à la demande de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas avec l'Inde, ce qui n'est pas le cas avec le Japon ou avec d'autres. Deuxième remarque sur le partenariat transpacifique. Vous avez dit que, dans le fond, le Mexique et le Canada ont été placés un petit peu à genoux et ont dû faire des concessions avant même d'arriver à la table de négociation. Je ne le vois pas nécessairement exactement de la même façon. C'est-à-dire, moi, ce que je perçois dans l'entrée du Canada et du Mexique dans le partenariat, c'est davantage ce que vous disiez plutôt, l'espèce de sentiment à la fois que ces pays-là sont les meilleurs alliés, mais sont les plus grandes menaces. Et si ces pays-là n'ont pas été invités au départ, c'est parce qu'ils étaient considérés comme une menace dans le cadre de négociations où les États-Unis ont vraiment pris le contrôle de l'agenda. Et ma question, vous avez parlé beaucoup de problèmes au niveau de la sécurité qui ont mené au niveau sécuritaire qui ont mené à la désintégration de l'ALENA au niveau économique. Cela dit, moi ce que j'ai perçu, c'est que c'est beaucoup dans le fond la variation du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain qui ont provoqué le plus gros de la désintégration au niveau américain, qui a vraiment entraîné une dynamique qui a commencé avant le 11 septembre, au niveau de cette désintégration-là. Puis donc, je veux savoir, dans le fond, est-ce que c'est le problème, au-delà du problème sécuritaire, ce serait pas un problème de politique monétaire, de désintégration américaine?
Oui, oui. OK, merci. Oui, je n'ai pas parlé à ce niveau. Je vais commencer par en sens inverse. Mon analyse n'était pas centrée sur l'explication de ce qui se passe dans l'économie en détail, et certainement le changement de la valeur du dollar canadien a beaucoup influencé sur ce qui se passe. Ça pourrait être quand même, si on développe l'analyse de ce qui se passe dans l'intégration canadienne dans l'économie américaine, on devrait lier ce changement dans la valeur du dollar à l'économie d'Alberta et son intégration comme source de matière première pour l'économie américaine. Et dans ce sens, un aspect de l'intégration économique canadienne dans l'économie américaine, c'est-à-dire l'exportation de pétrole à prix élevé, qui nuit à l'autre aspect de l'intégration économique sur le plan industriel. Et le fait que nous avons une communauté monétaire fédérale et que l'Alberta n'est pas autonome dans la valeur de sa monnaie résulte a comme effet que nous souffrons de cette valeur augmentée. C'est vrai, c'est un aspect très important du problème. En ce qui concerne les provinces, c'est vrai que l'Inde ne veut pas que les provinces soient incluses dans les délégations parce que New Delhi essaie de supprimer le rôle des États indiens dans la politique fédérale. Et sans doute Singapour ou autres États ne vont pas vouloir que les provinces canadiennes soient membres des délégations de négociation. Néanmoins, chaque pays qui négocie et qui signe avec le Canada a comme problème, et c'est très bien, qu'il y aura un problème dans l'avenir si les provinces n'acceptent pas l'accord. Parce que si Québec n'accepte pas dans sa propre champ de juridiction une clause ou un chapitre, alors c'est un peu comme négocier avec l'administration américaine quelque chose et puis le Congrès fait obstacle par la suite pendant le débat au Congrès sur l'acceptation d'un traité. Alors, et c'est un paradoxe aussi parce que l'Europe n'a pas l'Allemagne à la table, la Commission européenne n'a pas l'Allemagne à la table. Mais je pense, dans un sens, c'est un débat un peu théorique, dans le sens péjoratif du mot, parce que l'Allemagne est présente à la table dans le sens que les négociateurs européens sont en contact très intime avec Berlin sur chaque question. Je n'ai pas fait beaucoup d'interviews à Berlin cet été, mais j'en avais un qui était très intéressant et c'était évident. C'était au ministère de l'économie et de la technologie à Berlin. C'était clair que cet homme et les deux femmes-là avaient des contacts très proches avec la Commission et peut-être Malta. N'est pas présent dans la tête des négociateurs européens, mais l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre sont bien là, je pense. Alors, si la province est dans la chambre, ou simplement ce que les Mexicains appellent le cuarto al lado, dans un sens, ça n'importe pas beaucoup. C'est une question de quel type de rapport existe-t-il entre le négociateur présent et les gens en arrière. L'Europe comme inspiration. Oui, dans un sens, j'ai tort, parce qu'on pense à l'Europe, on avait pensé à l'Europe en créant Mercosur en 1991. l'Europe est là dans notre tête comme système, comme un modèle, comme un prototype. Alors, et l'Europe avait une influence sur, c'est quoi, la communauté des pays andéens, la cour de ce, en anglais c'est le CAN, communauté, en espagnol, la cour dans cette région est modelée sur la cour de justice à Strasbourg. Alors, donc le modèle européen est là, c'est présent dans la conscience des gens. Mais quand même, à ASEAN, de cette organisation des États de l'Asie du Sud-Est, eux, ils fonctionnent sur un principe beaucoup plus consensuel que autoritaire, comme André Lajoie l'a dit, sur qui est le modèle européen. Alors, Peut-être je n'ai pas raison, mais mon impression, c'est qu'il n'y a pas une région, en fait, et si on ne parle pas du modèle, mais si de la réalité, il n'y a pas une région avec des institutions tellement puissantes et conséquentes. J'ai parlé du renforcement du pouvoir constitutionnel de la Commission en ce qui concerne l'investissement, grâce au traité de Lisbonne, mais aussi le Parlement européen a vu ses pouvoirs s'augmenter un peu, je pense. Et alors, le modèle, la réalité européenne, je pense, devient plus important, mais le modèle outre-mer, on n'arrive pas à faire une sorte de copie de ce modèle. Avec la question de Michel, le TPP, j'avais mal compris les deux questions sur le TPP. On ne sait pas ce qui va se passer parce que c'est un processus en cours. Et je n'ai pas vraiment fait du travail sérieux. J'ai lu des articles, mais je ne suis pas au courant de ce qui se passe. J'ai l'impression que la tactique vue de Washington, c'était d'essayer de nouveau si APEC, the Asia Pacific Economic Cooperation, n'a pas créé grand-chose, d'essayer encore une fois de faire un regroupement qui renforcerait la position américaine sur le plan économique, mais aussi sécuritaire vis-à-vis de la nouvelle menace chinoise ou de la nouvelle réalité, si ce n'est pas une menace, du moins de la nouvelle réalité chinoise. Mexique et le Canada maintenant vont participer aux négociations. Et là, deux choses. J'ai présenté ça comme une preuve de désintégration de l'Amérique du Nord, mais ça, c'est peut-être aussi le contraire en même temps, parce que les trois pays, Mexique, Canada, États-Unis, partagent plus ou moins la même idéologie néoconservatrice en ce qui concerne les valeurs qu'ils veulent appliquer en ces accords. Le Mexique négocie ses propres accords bilatéraux, le Canada négocie ses propres accords bilatéraux, les États-Unis négocient, à part le TPP, ses propres accords bilatéraux. Si on les regarde, on voit qu'ils ont les mêmes normes, surtout ces normes sur l'investissement, plus ou moins les mêmes. Et donc, il y a un consensus continental qu'on ne voit pas parce qu'on voit qu'on négocie séparément, mais beaucoup des normes sont communes. Mais pour le TPP, on va voir. Il y a des contestations. L'Australie ne veut pas qu'il y ait des normes puissantes en investissement. Il y a eu et nous avons des collègues, non seulement David Schneiderman, mais des avocats en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ont monté une protestation contre pour militer contre l'inclusion de clauses sur l'investissement dans le traité, s'il y a un traité. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Et le Japon veut être observateur. La Chine veut être observateur. Est-ce qu'ils vont participer? Est-ce que ce sera une mini-gâte pour le Pacifique? Ça, c'est aussi possible. Alors, pour revenir à mon thème de régionalisation, ces nouveaux développements peuvent montrer aussi que le régionalisme n'est pas ce qu'on dit mes collègues il y a pratiquement 20 ans, que le régionalisme, regionalism was the midwife of globalization. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce qu'il y a tellement de formes différentes de négociations, soit bilatérales, soit transrégionales, que le simple phénomène de régionalisation, je pense que est relativement mineur comme phénomène. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et votre question, ça va? Ok, merci.
Juste avant, il y a quand même un élément qui est important dans le TPP, c'est la propriété intellectuelle.
C'est la propriété
intellectuelle. Là, c'est pas tant j'ai l'investissement que le... Et c'est l'occasion aussi pour les États-Unis de rouvrir les accords et également aussi de renforcer la propriété intellectuelle et notamment ce qui est la contrefaçon. Donc, c'est aussi partie du. Ça, c'est simplement une volonté stratégique. Bien, écoutez, je remercie tout le monde et particulièrement le professeur Clarkson pour avoir prêté cet exercice. Nous avons eu un échange ce matin très, très fructueux et en même temps aussi qui nous ouvre bien des perspectives. Alors, encore une fois, cher Steve, merci beaucoup.
Et merci à vous. Merci à vous. C'était un contraste merveilleux avec hier. Et engagement intellectuel avec les questions. Merci beaucoup.